écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dernier souvenir d'enfance. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP.
Pensez que tout est fini ce soir à Alger. Est-ce qu'à votre avis, Alger est maintenant définitivement entre les mains des forces loyalistes?
Très difficile à dire pour le moment, parce que il faudrait faire le tour de la ville, se rendre compte de tout ce qui se passe dans tous les quartiers d'Alger, à Belcourt, à Babel-Ouest, au boulevard Rue et ailleurs, pour savoir exactement où l'on en est maintenant.
Roger Fenech, le président de la section de Lyon, vous parle.
Mesdames, messieurs, chers compatriotes, amis lyonnais, je vous salue. Je vous dis un grand merci d'être venus aussi nombreux. Voyez-vous, quand ce palais a été construit, on avait dit que le maire avait vu trop grand, mais on n'avait pas compté avec les pieds noirs. Je déclare ouvert ce grand rassemblement de la fidélité. Et je peux vous dire que tant que tous ne seront pas libérés, nous, pieds noirs, nous ne serons pas des hommes libres.
La parole est à Maître Norelli.
Je suis véritablement ému de l'honneur qui m'est choix de prendre la parole dans une audience aussi chargée. N'attendez pas de moi une plaidoirie. Si je laissais parler mon cœur, c'est un véritable réquisitoire que je prononcerai contre tous ceux qui ont volé nos terres, qui ont pillé nos foyers. Détruit nos avenirs. Qu'il me soit permis à tous les rapatriés, de quelque terre volée qu'ils viennent, de leur adresser mon souvenir ému, et en particulier à mes amis, à mes camarades de Bab-el-Oued, Belcourt.
Gilbert est debout dans la baignoire et regarde son corps qui s'est transformé ces derniers temps. Il s'ennuie, car il a honte de prendre sa douche de mardi matin à l'école.
Gilbert, tu te dépêches de sortir de cette salle de bain?
C'est sa voix de sa mère qui vient de le rappeler à l'ordre. Il sort de la baignoire et prend sa serviette éponge. Sortant de la salle de bain habillé, il retrouve sa mère dans le couloir.
« Je ne sais pas ce que tu as ces derniers temps, mais tu es insupportable. Pourtant maintenant, tu n'es plus un enfant. »
Il rougit et ne sait que répondre.
« Dépêche-toi d'aller dans la cuisine prendre ton petit déjeuner. »
En sortant de son immeuble qui se trouve au numéro 49 de la route de Vienne, immeuble 9, en ce début de juillet, le ciel est bleu, il commence à faire chaud, pourtant il n'est que 8 heures. Gilbert, pour aller à son école, longe l'avenue Berthelot vers la mairie du 7e. Gilbert est grand, mince, son visage est fin, délicat, ses cheveux sont bruns et très épais. Il porte une chemise blanche et un short marine. Son trajet jusqu'à l'école dure un quart d'heure environ. Gilbert aime ce trajet qui lui permet de rêvasser. Il ne sait pas pourquoi, mais en ce moment, il a envie de solitude. Il aime bien ses camarades d'école, mais il se sent plus comme eux. Et cela le gêne.
Non, en anglais, McCroy.
Mais c'est pas une question que je vais poser là-bas, je saurais quand même bien où je suis.
Arrivé dans la course de Saint-Michel, il est salué par son ami Didier. Salut Gilbert, ça va ? Oui. Gilbert pose son cartable dans le préau et, avec Didier, ils font le tour de la cour tout en marchant. Les autres élèves jouent aux billes, aux quatre coins ou au football simplifié. L'instituteur qui les surveille marche de long en large, les mains dans le dos, un sifflet métallique dans ses mains. Sa blouse grise est ouverte et montre une chemise blanche avec une cravate bleue. Gilbert regarde Didier et se dit qu'il est le seul à avoir tant changé. Didier a le même âge que lui, mais il est resté enfant. Il a une tête ronde, comme la tête à Toto, avec des cheveux coupés ras, ses cheveux sans chantin clair. Didier est plus petit que Gilbert, au moins d'une tête, et ses shorts ne laissent pas voir, comme lui, des jambes duvetées. Tu vas en vacances où ? Demande Didier. Cette année a été dure pour notre famille, alors nous allons au Motier dans l'Isère, à 60 km de Grenoble. Moi je vais à Marseille, chez mon oncle. J'ai hâte d'être en vacances. Et toi ? Je ne sais pas. Je me sens bien à l'école, mieux que chez moi. Mais en même temps, j'ai envie de solitude. Et puis, ça m'ennuie beaucoup d'avoir changé. Mais non, pourquoi ? C'est chouette. Les filles vont pouvoir te voir maintenant. Gilbert hausse ses épaules. Ça, c'est toi qui le dis. Mais si tu savais comme c'est embêtant. On se sent mal dans cette nouvelle peau. On se sent vraiment mal.
Je suis Richard, cœur de lion, l'orgueil de la chrétienté. Je vais te bouter de Jérusalem. Sarrasin fidèle.
Gilbert, comme chaque année, à l'approche des vacances, se sent triste. Mais cette année, il sent que quelque chose, il sent quelque chose de spécial, la fin d'une vie, la peur de cette nouvelle vie qui s'annonce. Il aimerait que le temps s'immobilise. Il sent que ce qu'il connaît, aime, ne sera pas pareil à ses yeux. Après les vacances, commenceront ses amis. Avec eux, il aimait dire plus tard. Et ces mots l'emmenaient dans des rêves merveilleux. Maintenant, ces mots lui font peur. Il les redoute plus que la mort. La sonnerie a retenti. Les élèves rentrent en étude. Les escaliers de pierre usés, l'allée sombre, sentant la poussière, le long couloir vitré, tenant sur les classes, la classe avec son odeur d'encre, de craie, son bureau au milieu de la classe, vieux bureau aux multiples inscriptions. Le soleil éclaire trop fortement la classe, ce qui gêne Gilbert, car ce n'est pas une lumière scolaire, mais une clarté de vacances. Gilbert a comme voisin Didier. Pour la première fois, pendant que l'instituteur parle, il regarde Didier. Il est surpris par la blancheur de sa peau, ses oreilles, son cou. Ceci lui donne un trouble étrange, de grandes palpitations et un désir de toucher. Mais au bruit d'une règle qui est tombée, à terre, le sort de sa rêverie. Il sourit et se dit, mon copain Didier, après tant d'années de franche amitié, mais le rêve revient. Thank you. Et Gilbert, en lui prenant la main pour lui dire au revoir, ne peut s'empêcher de la lui caresser, ce qui lui fait un plaisir immense et en même temps une grande honte. Plus jamais je ne ferai cela. L'amitié, c'est la plus belle chose au monde. Si Didier savait mes pensées de cet après-midi, j'en mourrais de honte. Le lendemain matin, Gilbert est réveillé par sa mère qui le secoue.
Mais il est quelle heure ?
6 heures. Il faut te lever. À 7h30, nous avons rendez-vous avec le chef du personnel de l'usine Royal Prestige.
Gilbert se met sur son séant.
Pourquoi faire ?
Pour te présenter pour un travail.
Il a la gorge qui se serre.
Et l'école ?
Ne te fais pas de soucis, je leur ai dit que tu n'irais pas à l'école ce matin. Tu as 14 ans, c'est le moment de penser à ton avenir.
Gilbert est effondré. Sa mère lui annonce, comme ça, à 6 heures du matin, qu'elle avait décidé que sa vie allait être bouleversée sans lui demander ce qu'il souhaitait faire. On avait décidé pour lui, qu'importe que ça lui plaise ou non. Il a l'impression d'être une chose, un paquet. Gilbert se sent effondré, trahi, humilié et même puni. Puni de quoi ? Il ne le sait. Mais trahi par qui ? Par celle qui connaît le plus au monde, qui l'aime le plus au monde, sa mère. On en est clair ? On le poussait dans un autre monde. Ah, les années 60, années encore cruelles pour la jeunesse. Aucun droit, seulement des devoirs. À 14 ans, du jour au lendemain, l'on vous volait votre jeunesse et vous vieillissez de 10 ans. Gilbert est effondré, il a envie de pleurer, la gorge serrée. Il ne dit rien, il sait que cela ne servira à rien de pleurer. Ce qui lui fait le plus de mal, c'est que sa mère ne fait même pas attention à son trouble.
Dépêche-toi de te lever.
Elle sort de la chambre. Ne pleure pas. Il ne peut pas pleurer. Cette chambre vaut aussi celle de son frère qui dort dans le même lit que lui. Chambre sans personnalité, grande, propre. Il prend ses vêtements machinalement et sort de la chambre. Il suit le couloir pour entrer dans la salle de bain. Il voit à travers la fenêtre qu'il fait déjà jour. Il ne savait pas qu'il faisait déjà jour si tôt. En se lavant, il essaie de ne pas penser. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il essaie de ne pas pencher. Mais là, c'est dur de ne pas pouvoir penser avec ce qui lui arrive. De la salle de bain, sa mère lui donne un pantalon long marron.
Tiens, mets-le.
Pantalon long, que les enfants mettent que l'hiver, pantalon d'adulte, changement de vie, changement de costume. Ce changement-là, il aurait pu être une joie, devient le symbole de la fin de la jeunesse.
il le met sans plaisir. Il ne l'a pas choisi, ni voulu. Alors, dans ces conditions... Voici qui marche dans les rues à suivre sa mère. Il lui a même pas dit où il allait. À quoi bon? Il n'a qu'à obéir.
Il te faudra te rappeler les rues pour y aller. Demain, je ne pourrai pas t'accompagner.
Il est inquiet. Elle le mène dans des rues qu'il ne connaît pas. Et puis aller où? Et demain? Son premier jour? Son premier jour de travail? Pourquoi faire? Faire quoi? L'école n'est même pas finie. Cet après-midi, c'est ses dernières heures d'écolier. Après, fini l'école, les copains. Tout s'effondre. Et elle marche d'un bon pas. Il faut la suivre. Elle ne dit rien. Elle ne sait plus. Elle ne sait plus. Elle entre par une porte vitrée dans un bureau. Gilbert l'a suivie. Une banque. Elle demande Monsieur Henry. La standardiste téléphone. Un petit monsieur à lunettes arrive vers la mère. Je vous remercie de vous présenter mon fils, comme je vous l'avais dit hier. Le petit monsieur s'approche de Gilbert. Bien. Il prend un papier et un stylo vers la standardiste. Griffonne quelques opérations, étend le papier et le stylo à Gilbert. Gilbert transpire, sa tête qui tourne. Il fait ce qu'il peut. Une fois qu'il a fini, le petit monsieur regarde. Il n'est pas très fort en mathématiques. Il a quel âge?
14 ans.
Bon, qu'il vienne demain ici à 7 heures. Les bureaux sont ouverts à 7 heures. Les horaires sont 7 heures, midi moins de quart, 14 heures, 19 heures, et le samedi aussi. Au revoir, madame. La mère et Gilbert sont sortis du bureau. Voilà, c'est fini. Gilbert n'ose pas demander à sa mère quel travail il va faire. Et puis, cela ne l'intéresse pas. Il ne va pas demander son avis. Il refuse à l'intérieur de lui-même cette nouvelle vie. Après 5 minutes de marche, sa mère lui parle.
Tu vas apprendre le métier de mécanicien.
Lui qui déteste la mécanique, qui rêve de... À quoi bon les rêves? On laisse ses enfants de 14 ans rêver tranquillement d'îles lointaines et...
Tu peux aller à l'école tout de suite si tu veux. Comme ça tu mangeras à la cantine.
Oui. Thank you.
là. Allez, c'est bien. Allez. Allez, allez, allez.
Ça, c'est ici. C'est bien.
Arrivé en classe, il sait qu'il ne dira rien. Didier lui sourit. Comme il a l'air inconscient, Didier, innocent. Gilbert regarde, puis lui sourit. Autant qu'il garde un bon souvenir de lui. Tu étais fatigué ce matin ? Oui. L'instituteur demande... Personnes qui ne reviendront pas l'année prochaine. Gilbert n'ose pas lever le bras. La journée s'est passée vite. Gilbert a essayé d'oublier la nouvelle vie qui commence demain. Il a eu avant de partir la distribution des prix. L'instituteur, cet idiot, n'a acheté que 2 sortes de livres. Tous les deux ne plaisaient pas à Gilbert, alors il a pris au hasard. Dernier souvenir d'école. Ensuite, chacun s'est dit au revoir et l'on a quitté la classe et l'école. Ils courent tous et sont heureux. Seul Gilbert marche lentement et a le corps gros. Déjà pas comme les autres. Plus comme les autres. Cette année, le départ est un peu plus triste que les autres. Mais les autres années, Gilbert était triste aussi, car ses parents l'envoyaient en colonie. Et Gilbert déteste cela. Mais... il avait au moins l'espoir de retrouver l'école, là, demain matin. Il lui reste quelques heures jusqu'à demain, 7 heures. Il regarde la grosse horloge de l'école. Il est 17 heures. Mon Dieu, fait en sorte à ce que le temps puisse s'arrêter. Tout à coup, saute sur lui et lui donne un baiser sur la joue, Didier. Bonnes vacances. Et toi aussi, Didier. Pendant une seconde, a envie de tout lui raconter. « Tu vas où demain ?» demande Didier. « Au métier dans l'Isère. Moi, je vais en Bretagne. N'oublie pas de m'envoyer une carte. Je n'oublierai pas. » Et chacun part de son côté. Se dit que c'est sans doute la dernière fois qu'il le voit. Aujourd'hui, c'est la dernière fois de beaucoup de choses. Même la dernière fois de prendre cet itinéraire. Pense aussi que personne n'a fait attention à ses culottes longues. Tant mieux. Chez ses parents, qui habitent en 4 pièces cuisine, pauvrement meublée mais propre, tout semble comme à l'ordinaire. Sa mère lui a ouvert la porte en ne lui disant rien. Retrouve à la cuisine son petit frère, qui prend son goûter. C'est des tartines de crème de marron.
Gilbert s'assoit à côté de lui. On prend une toute préparée dans une assiette. C'est bon la crème de marron. Demain, à cette heure-là, il sera encore au travail. Puis, il va ranger son cartable dans sa chambre. Avant de le mettre dans un rayon du placard, il l'ouvre. Le cartable pour un écolier, c'est comme un sac à main pour une femme. On y met de tout. Des choses inutiles comme les choses les plus précieuses qui soient. C'est surtout l'endroit où l'on cache le plus de secrets. Mais pour Gilbert, la vie ne lui a pas permis d'avoir de secrets. C'est pour plus tard, mais un lointain proche, où il apprendra qu'il faut cacher son bonheur, ses joies, pour qu'on ne puisse pas les lui prendre. Non, cette fois-ci, il sort seulement le livre de prix. Referme son cartable. Et va le mettre sur le rayon du placard. Puis feuillette le livre. Le trouve fade. Peut-être le lira-t-il un jour, mais pas aujourd'hui. La soirée s'est passée comme à l'accoutumée. Personne ne lui a rien dit. C'est comme si tout était réglé d'une façon définitive, sans retour en arrière. Gilbert, dans son lit, sent son sexe se durcir. Il sait que lorsqu'il a de l'angoisse, cela lui fait du bien. Mais, puisqu'il couche avec son petit frère, il ne peut pas se toucher. Un soir, il l'avait fait, et le lendemain matin, son frère lui avait demandé ce qu'il faisait avec sa main dans son slip. Il ira tard, dans la nuit, au cabinet, se masturber. Il n'a pas sommeil, et aimerait qu'il n'y ait pas de lendemain. Le lendemain, il est réveillé par sa mère.
Il est l'heure.
Et elle quitte la chambre. Il se lève, prend ses vêtements et va dans la salle de bain. Pendant qu'il prend son petit déjeuner, sa mère lui dit en lui montrant un sac en papier.
« C'est ta blouse pour ton travail. Elle est en coton gris. » «
avant qu'il ne parte.
Tu sauras retrouver ton chemin.
Oui.
Arrivé devant l'entrée du bureau de l'entreprise, il hésite un moment. Puis, le corps gros, il entre. Le standardiste parle avec une grande dame blonde. Elle le voit enfin, prévient le directeur. Le directeur vient vers lui.
Venez, je vais vous accompagner jusqu'à votre atelier.
Ils sortent du bureau. Longe une petite cour. Et entre dans un atelier.
Il fait sombre, beaucoup de bruit, d'énormes machines et des ouvriers.
Est-ce que vous avez beaucoup d'amis ?
Oui, beaucoup.
Vous connaissez des gens qui travaillent ici ?
Non. Il le mène devant un ouvrier, lui parle, mais Gilbert ne comprend rien. Ne sait pas pourquoi il rit.
Le directeur se chauffe. L'ouvrier s'approche de lui.
Tu t'appelles comment ?
Gilbert Deschamps.
Et moi, Julot.
Il va lui apprendre à boulonner. L'usine fabrique des poussettes pour enfants.
Un rêve étrange. Une sonnerie retentit.
C'est l'heure de la sortie.
Bonjour, bonsoir. Ah, salut.
Il est l'heure de partir. Gilbert suit ses camarades qui, avant de quitter l'usine, pointe. Et pour le faire, il suit une longue queue d'hommes. Il y a une pointeuse pour les femmes, une pour les hommes. Gilbert a son carton à pointage que Julot lui a donné. Il y a écrit dessus son nom, la date et un numéro. Quand c'est à lui à pointer, il a peur de se tromper. Il met la carte dans le trou de la pointeuse et appuie sur la manette. Puis cherche le casier où mettre son carton. Ouf, c'est fini. On perd à chaque entrée et sortie 5 à 10 minutes pour se pointer. C'est pour cela qu'il faut arriver bien à l'avance. Car si l'on vient trop juste au travail, on risque de pointer en retard. Une minute de retard égale un quart d'heure de salaire en moins. 3 retards dans le mois, une mise à pied. Il faut normalement être alors sur son lieu de travail et non à la pointeuse.
Père se dépêche, car il n'a pas beaucoup de temps pour manger. Commence pour lui la course avec le temps qui durera toute sa vie. Arrivé chez lui, tout essoufflé, encore plein de bruit, de nouveaux visages, de peur, il se met à table sans fin. Sa mère, en le servant, lui demande comment ça s'est passé.
Tu ne dis rien, tu devrais être heureux d'avoir trouvé du travail. Je comprends, tu n'es qu'un feignant. Dépêche-toi de manger.
Gilbert a les larmes aux yeux. Elle hausse les épaules.
Monsieur aimerait mieux passer son temps à feignanter. Je me suis décarcassé à te trouver du travail. Et en guise de remerciement, monsieur fait la tête.
Il a fini son dessert et repart en vitesse. Arrivé à l'usine, il fait la queue pour pointer. Lorsque c'est son tour, il ne sait plus où se trouve sa carte. Il a oublié le numéro. Il a beau chercher, il ne la voit pas. Et les autres qui sont derrière lui, qui commencent à s'impatienter. Rouge de honte, il s'en va sans avoir pointé. Entre dans son atelier, trouve sa place, met sa blouse et attend. Quelques hommes et femmes discutent entre eux. La sonnerie retentit. L'atelier se remplit, les machines se remettent en marche. Lui commence à boulonner. Un homme maigre, en blouse blanche, vient vers lui. C'est toi qui as oublié de te pointer ? Gilet tout rouge. Fais-vous de la tête. Ta carte de pointage est dans le numéro 730. Je t'ai pointé. Tu le feras ce soir. Il ne faut pas être troublé comme ça. Ça ferme ? La journée de travail se passe sans autre difficulté. En rentrant chez lui, il est 19h30. Déjà. Sa famille a pris le repas du soir avant lui. Il est seul à la cuisine, à manger sa soupe. Son père père vient s'asseoir à côté de lui. C'est un homme grand, gros, les cheveux grisonnants. Il est habillé d'un pantalon et d'un maillot de corps tricoté.
Alors, comment ça s'est passé ?
Je ne sais pas.
Tu es un homme maintenant. C'est bien d'avoir un travail. Qu'est-ce que tu fais ?
Je boulonne des poussettes.
C'est bien ça.
Les gens sont comment ? Je perds aux ses épaules. Ils ont l'air un peu vulgaires.
C'est parce que tu ne les connais pas.
Gilbert a mal au dos, fatigue physique et morale. Alors il décide de se coucher tôt. Puis c'est aussi parce qu'il a peur d'être en retard pour le lendemain. Les jours passent, tristes et maussades. Gilbert a l'impression de vivre un mauvais rêve. Quelques ouvriers de l'usine ont essayé de lui parler, mais il n'ose pas leur répondre. Il a un peu peur d'eux. Il les trouve tellement plus vieux que lui, et il pose des questions embarrassantes et le font rougir. Il se dit que jamais il ne sera comme eux. Des fois, on lui propose des cigarettes ou d'aller au café le soir. Il refuse. Les femmes à l'usine ne ressemblent pas à ces femmes qu'il connaît. Il les trouve vulgaires, bizarres. Elles n'ont pas honte de parler de certaines choses avec les hommes pour rigoler, comme elles disent. Lui rougit pour elles. Comment ferais-je pour m'habituer à tout ceci ? Il signera son contrat avec ses parents après les vacances et là, il sera lié à l'entreprise pour 3 années d'apprentissage. Un ouvrier qui fait partie de la CGT veut qu'il se syndique au syndicat des jeunes travailleurs. Gilbert ne comprend rien à ces histoires de lutte. On lui a toujours dit qu'il fallait respecter les patrons parce que c'était eux qui donnaient le travail. Il ne peut tout de même pas se liguer contre celui qui l'a embauché. D'ailleurs, Gilbert se sent plus près du patron que cet homme mal habillé, mal rasé, qui sent le vin et qui sent le connaître le tutoie, ce qui agace Gilbert. Tous les soirs, il se couche tôt, la peur d'être en retard. Cette première semaine, il n'a pas vu de jeunes, car les jeunes de l'entreprise sont déjà en vacances. Le dernier jour est là, enfin samedi après-midi. Avant qu'ils ne partent, il y a distribution de paye. C'est la fin de la quinzaine, oui. Comme les ouvriers ne gagnent pas beaucoup dans les usines, on les paye par quinzaine. Et même s'ils peuvent recevoir toutes les semaines un acompte. Les payes sont données en espèces. Le chéquier, ce n'est que pour les grosses fortunes. Gilbert a eu un papier transparent. Dedans, il y a eu une fiche de paye longue et rectangulaire écrite à la main et un billet de 5 francs. Il est payé 25 centimes de l'heure. Les ouvriers, pour arroser leur paye, vont au café qui se trouve en face de l'usine. Gilbert a mis sa paye dans sa poche. Il a ni joie, ni peine. Rentrant chez lui, il la donne à sa mère.
« Merci !»
Et va mettre le billet avec l'argent du ménage dans son armoire sous les draps. Gilbert regarde ses mains. Ce ne sont plus des mains d'enfant. En une semaine, elles ont changé. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, dernier souvenir d'enfance dont c'était la première partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.